Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, des cartons d'intertitres, un micro en cabine, la bande Rythmo et des spectateurs très exigeants. Notre invité est Hugo Amizé, alias Mr. Fox, youtubeur spécialiste du doublage dans l'audiovisuel. L'équipe aujourd'hui d'Ascritch, j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Ok, ça tourne. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui dimanche matin va te mettre ce dessin animé que tu aimes tant, série que tu bassines à ta petite famille. Je vais te surprendre, la France est un immense exportateur de dessins animés. Et pour cela, les producteurs ont dû internationaliser leur production, donc penser d'abord à vendre à des chaînes de télé étrangères ou des services vidéo internationaux avant de songer aux diffuseurs français. Et donc, les voix des petits personnages que tu vois à l'écran ont d'abord été créées en anglais et ensuite doublées en français. Oui, oui, Marinette, Chat Noir, tout ça. Ils parlent anglais dans leurs aventures et les voix françaises viennent après.
Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres.
Alors que la série est écrite et produite en France. D'ailleurs, si tu passes ce dessin animé en version dite « originale », tu vois clairement que les mouvements de bouche sont bien plus raccords quand ils minaudent en anglais. Oui, oui, leurs lèvres collent alors mieux à leurs mots. C'est ce que l'on appelle le lip-sync. D'où un premier sujet. Non pas « qu'est-ce que Emily, elle connaît de Paris ?» mais « comment a été créé le doublage ?» Au début du cinéma, celui-ci était muet. Comme tu m'écoutes à la radio, je ne vais pas te mimer la suite de ma chronique. Pour expliquer les dialogues entre personnages ou indiquer l'action, fut inventé l'intertitre écrit sur un carton et filmé en plan fixe. Comme ça, les sourds et les non-sourds pouvaient comprendre le même film, la différence étant que les entendants profitaient du bazar auditif de la salle de cinéma. Outre le pianiste, les gens s'extasiaient, riaient, hurlaient, parlaient à voix haute, etc. Dès que les films commencèrent à s'exporter, et en premier les films français des Lumières, Gaumont, Pathé et autres Méliès, ces films, quoique muets, devaient être traduits. Sur le titre, et notamment les cartons intertitres et dialogues. C'était facile, suffisait juste de traduire chaque carton et faire un minimum de montage en copier-coller pour qu'il soit prêt à projeter en Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Espagne, etc. Le hack est bête comme un Texas Switch, la technologie parfaitement efficace. Les cartons intertitres furent même discipline reconnue aux Oscars, l'équivalent des Jeux Olympiques du cinématographe. Un Oscar fut décerné au meilleur réalisateur-rédacteur de cartons-titres lors de la première cérémonie en 1929. Ce prix n'a été remis qu'une fois. D'abord parce que le cinéma parlant arrivait, mais là je spoil. Ensuite, à cause de la crise boursière de 1929, les organisateurs ont fait l'économie de quelques tables, c'est qu'elles coûtent cher ces statuettes dorées. T'imagines, Joseph Farnham, en descendant de l'estrade de la première soirée des Oscars, on lui a dit « Ah bravo, tu as un prix unique dans l'histoire, celui des plus jolis cartons intertitres. Par contre, on aura beaucoup moins besoin de cartons puisqu'on n'a plus que les génériques de films à faire faire. » Heureusement qu'il était aussi scénariste, réalisateur et membre fondateur de l'Académie. Il aurait pu trouver autre chose. Il sera aussi le premier oscarisé à mourir. Nous voilà donc avec cette merveilleuse avancée technologique qu'est le cinéma parlant, celle qui permettrait enfin d'entendre les acteurs et aux propriétaires de cinéma de congédier pianistes et orchestres. Lights of New York, The Jazz Singer, les premiers films talkies cartonnent et enterrent le cinéma muet. Toute la chaîne de production et diffusion doit vite évoluer. Les exploitants de cinéma reçoivent donc du distributeur américain les bobines avec le matériel de sonorisation à adapter au projecteur. Mais ces films étaient projetés tels quels, avec le son original en anglais. Et comme en France, on est cocardière à l'heure, lors des toutes premières séances de cinéma, le public s'est mis à huer en hurlant
« En français ! En français !»
Eh oui, déjà notre exception culturelle. Note, il y avait la même demande qui venait du Mexique, du Québec, d'Allemagne, d'Italie, j'en passe. Donc très vite, les producteurs d'Hollywood ont cherché des solutions. La première d'entre elles fut de tourner des versions internationales de films parlants, ou plus exactement, re-shooter la même scène d'un même film par différents acteurs en version française, allemande, espagnole, etc. Le plus souvent, ce tournage se faisait le soir, les équipes techniques pour l'espagnol, le français, etc., ayant observé ce qui a été fait en journée par l'équipe originale anglophone pour tourner leur version le soir et la nuit. Avec des bizarreries d'ailleurs, la version hispanophone du Dracula de 1931 est considérée comme meilleure que l'anglophone avec Bela Lugosi. D'autres films comme Les Vacances du Diable étaient en fait des remakes locaux retournés au plus vite en gardant le plan de montage original. Ouais, des remakes locaux. Ce que font toujours les Américains pour les films français avec Trois hommes et un bébé ou encore True Lies et j'en passe. Problème, le retake demande de démultiplier les équipes et d'avoir des acteurs dans la bonne langue. Parce que les Laurel et Hardy tournés par Stan Laurel et Olivier Hardy en français phonétique, c'était moyen. Le duo n'a fait qu'une dizaine de courts-métrages en d'autres langues et ils n'avaient pas le temps et surtout, est arrivée assez vite la seconde solution, le doublage. Si tu n'as pas vu le film Chantant sous la pluie, je vais te spoiler. Une vedette du cinéma très jolie joue dans un film en 1928 au moment où s'installe la technologie du parlant. La suite du film va donc être parlée. Sauf que la très belle jeune fille a malheureusement pour elle une voix jugée très agaçante par tous les autres. C'est une vraie anecdote. Arrivé à Alfred Hitchcock, le maître du suspense, plutôt que retourner tout le film, il décide de recruter une autre femme avec une voix nettement plus agréable. Et de lui faire enregistrer les dialogues en synchronisé avec les lèvres de l'actrice principale. Et hop, doublage, lip-sync. Ben les producteurs d'Hollywood ont vu ce qu'a fait le réalisateur britannique et l'ont appliqué sur d'autres langues. Et enfin arriva la troisième solution, le sous-titrage. Là, on ne touche absolument pas au son, on ajoute en surimpression du texte écrit sur un carton traduit dans la langue du marché visé. C'est plus économique que le doublage car on n'a besoin que d'un seul traducteur-adaptateur par langue. Par contre, il faut que le public fasse l'effort de lire. Pour les personnes sourdes ou malentendantes, le sous-titrage est la meilleure des solutions. Alors oui, je sais, je fais partie des 15% des Françaises et Français qui préfèrent la VOST, version originale sous-titrée, à la VF, version française. Je le sens en utilisant la box télé de mon opérateur internet. Soit la piste au son originale, soit les sous-titres ne sont pas là parce que l'opérateur n'a pas bien qualifié les flux audio et sous-titres des chaînes de télé. Et quand tes préférences linguistiques sautent, t'as une preuve de plus que quasi tous les FAI français ont un manque de rigueur et de tests dans les logiciels de leur box télé. Alors que sur les plateformes américaines de VOD, bizarrement, c'est nettement moins fréquent. Oh. Et puis l'IA est arrivée dans la partie internationalisation du cinéma, dans la traduction, dans les sous-titres, dans le doublage. Une pétition a été lancée par le Syndicat français des artistes interprètes et l'association professionnelle Les Voix dans l'espoir que le ministère de la Culture conditionne les aides audiovisuelles au recours exclusif à des traducteurs et comédiens humains. Pas sûr que ce particularisme français tienne longtemps dans le temps. Enfin du futur immédiat, je me souviens dans les conventions genre Japan Expo ou Toulouse Game Show des karaokés doublages. On te montrait un épisode d'un dessin animé et avec deux à quatre autres quidam, tu devais doubler en direct et sans filer un personnage. C'était très drôle car tout le monde pouvait tenter de doubler son dessin animé favori devant un public hilar. Mais si on passe ça à une IA, où est encore le fun ?
Wintry winds start blowing and the snow is starting to fall. Then my eyes turn westward knowing that's the place that I love best of all. California, I've been blue since I've been away from you. I can't wait till I get going. Even now I'm starting in a call. California, here I come, right back where I started from, where bowers of flowers bloom in the spring. Each morning at dawning birdies sing and everything, a sun kiss, miss head, don't be late. That's why I can hardly wait. Open up that golden gate, California, here I come.
Al G. Johnson, California, Here I Come. Bande originale du premier film chanté, The Jazz Singer.
Birdies sing and everything a sun kiss me said, don't be late. That's why I can hardly wait. Come on, come on, open up, open up, open up that golden gate. California, here I come.
Vous écoutez Radio FMR? Parler du doublage au cinéma, c'est parler d'une activité importante dans les œuvres audiovisuelles, puisque 80% du public préfère voir un film en entendant sa langue maternelle plutôt que la langue d'origine. Un domaine que l'IA a investi comme la plupart des médias intellectuels et artistiques. Pour en parler, nous sommes allés chercher une personne qui fait un travail critique de qualité sur le doublage avec une pédagogie, une culture et on va dire une passion palpable. Nous recevons donc par satellite Hugo Amizé, alias Mr. Fox, youtubeur, Twitch et critique cinéma, spécialiste des procédés de doublage, prédateur naturel de certaines sociétés de doublage et qu'importe pour lui si vous dites doubleur ou comédien de doublage. Ceci est la première partie de l'interview, la suite sera diffusée la semaine prochaine. L'intégralité est déjà disponible sur la page web de notre émission cpu.pm/235.
CPU carré petit utile.
Hugo, merci de nous rejoindre.
Ah ben, un plaisir, merci beaucoup pour cette présentation élogieuse.
Quel est ton meilleur souvenir d'enfance sur un doublage ?
Souvenir d'enfance sur un doublage, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de films enfants, bah tous, hein, que j'ai vus en VF. Donc forcément, je pense à mes films préférés. Souvent, j'ai bien aimé la VF. C'est assez rare que j'aime le film, mais pas la VF. Moi, je vais plutôt te donner un souvenir d'adolescent, qui est l'animé japonais GTO, qui passait sur Canal+.
Ouais.
Qui était une très très chouette VF. J'avais pu en discuter avec certaines personnes qui avaient travaillé dessus, qui m'avaient confirmé que, en ce temps, Canal+ laissait beaucoup de liberté aux adaptateurs et aux comédiens. En termes de ton, en termes de registre, etc., ça s'entendait, ça se sentait. Et quand on était adolescent, entendre un personnage d'animé qui dit « Sérieux, tu te fous de ma gueule ou quoi ?» Il y a un côté un peu transgressif, un peu rigolo. C'est entendre le comédien qui fait Onizuka, qui est Benoît Dupac, l'entendre parler de son métier et en même temps l'entendre jouer comme un fou, qui m'a donné envie de l'interviewer dans un premier temps et dans un deuxième temps de mettre cette interview dans une émission sur le doublage. À la base, c'était un pilote pour la chaîne No Life qui est devenu un format régulier de ma chaîne YouTube.
Et c'est quoi qui t'a... où tu t'es dit, allez, je vais en parler en public, je vais faire un travail de pédagogie et de critique là-dessus. T'étais le mec, chaque fois, qui arrêtait pas d'en parler aux copains, aux copines, etc. Il y en a au bout d'un moment qui dit, mais parle-en aux autres.
Alors non, c'est pas tellement ça qui m'a donné envie. Ce qui m'a donné envie, c'est plutôt les anti-VF. C'est-à-dire que pour moi, c'est le doublage, ça fait partie de ma sphère culturelle au même titre que le film, les séries, tout simplement les émissions de télévision. Et j'étais très triste d'entendre des gens que j'estimais en parallèle pour leur travail dire « Ouais, mais non, la VF quand même, c'est une honte, c'est catastrophique, ça devrait pas exister, c'est chier sur l'art, c'est repeindre la Joconde. » Et moi, j'étais en mode « Non, les gars, c'est quand même un peu plus fin que ça. » Je me suis rendu compte que, aussi qu'il y avait une grande méconnaissance du métier, de comment ça fonctionnait, que jusqu'à maintenant, qu'il y avait pas mal de gens qui pensaient que c'était des comédiens qui improvisaient devant un micro. Et donc, je me suis dit, c'est bien dans un premier temps d'expliquer comment ça marche et dans un deuxième temps, aussi pour rendre crédibles mes propos, de ne pas dire toutes les VF sont bien, parce que c'est pas le cas, il y a des VF qui sont complètement ratées, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout rejeter. Et je me suis confronté à des gens, notamment toute une génération traumatisée par le Club Dorothée et CVF qui n'était pas toujours très respectueuse de la version originale. Et du coup, ça a été intéressant de leur expliquer que bah, ça, c'était une époque qui a changé, qu'on ne faisait plus comme ça, qu'on n'opérait plus de la même manière, que ce n'étaient plus les mêmes personnes aux commandes. Et tout ça, mis globalement dans un grand sac, eh ben, ça donne mon travail, qui est un mélange de vulgarisation, d'analyse, de critique, et tout simplement de, aussi de, je dirais pas de travail moral, mais une volonté de réhabilitation de la pratique du doublage, y compris quand on a une vision de l'œuvre audiovisuelle très absolue. C'est-à-dire, le réalisateur a pensé son œuvre. Il faut la retoucher le moins possible. Il faut qu'elle reste pure. Et ces gens-là, il faut leur expliquer parfois que pour rester pur, eh ben, le doublage, c'est parfois plus malin et plus respectueux, plus proche de la vision du réalisateur que le sous-titrage.
Laisse-moi deviner, t'en as eu marre des fansubs de dessins animés japonais de très mauvaise qualité ? Bon, on va expliquer. Le fansub, c'est une œuvre bénévole de sous-titrage qui est souvent liée au piratage d'un contenu sans sous-titres disponible.
Non, parce que les fansubs, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans le partage de la culture. Indirectement, c'est aussi eux qui ont permis de tirer la sonnette d'alarme à une époque où les boîtes de doublage se disaient « Bon, bah de toute manière, les gens ils comprennent pas le japonais, on peut plus ou moins faire ce qu'on veut. » Et c'est à partir des fansubs qu'on a commencé à dire « Ah oui, non, on fait pas tout à fait ce qu'on veut. » Je pense que le fansub a eu un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité du doublage, la nivellation positive. En soi, les fautes de goût qu'on imputait au doublage, les sous-titres fluo à rose, à fond vert, etc., c'est juste un problème de style, mais ça a quand même permis de rendre accessible, même de manière primaire, des œuvres culturelles étrangères.
Comment se produit une traduction d'une œuvre audiovisuelle ou vidéoludique ? Quelle est la chaîne de production traditionnelle ?
Traditionnellement, pour tout ce qui est audiovisuel, le jeu vidéo c'est un petit peu différent, mais j'en parle après, de l'audiovisuel, on commence avec le texte d'origine. Si c'est de l'anglais, on le confie directement à l'adaptateur ou l'adaptatrice. Mais parfois, on passe par une traduction intermédiaire. Si c'est du japonais ou une langue un peu exotique, on donne une traduction sommaire à l'adaptateur ou l'adaptatrice. À partir de ce moment-là, ce travail-là d'adaptation, ça va être d'écrire des dialogues qui sonnent bien, qui sonnent juste, qui sonnent oral, qui rentrent dans les bouches, ce qu'on appelle les labiales, essayer de mettre ce qu'on appelle les plosives, les P, les B, tous ces moments où les lèvres du comédien à l'écran vont être fermées. Il faut essayer de faire en sorte que ça colle. On est très strict là-dessus en France. On est très rigoureux. Une fois ce travail-là fait, on va confier ça au directeur artistique. Le directeur artistique, il va faire passer un casting auprès de comédiens qu'il connaît. C'est pas un casting ouvert au public, c'est vraiment du bouche à oreille aussi pour des questions de délai. Souvent, on n'a pas le temps de passer des jours et des semaines à faire un casting. Donc, on fait passer des essais à des comédiens, parfois sur une bande-annonce, en disant « bah essaye de jouer ce comédien ». Et puis, on montre au client. Donc, le client, c'est le diffuseur. Si c'est au cinéma, bah, ça va être le distributeur ciné ou VOD ou télé. Le client va faire son choix en accord, en collaboration avec le directeur ou la directrice artistique. Et puis ensuite, les comédiens sont appelés à la barre, en studio, et on va enregistrer leur travail. Selon le budget, ils vont avoir plus ou moins de temps pour travailler. Et puis une fois que ça c'est fait, le doublage, enfin les enregistrements sont montés pour recaler avec les images. Et puis ensuite, elles sont mixées. Ça peut être fait directement en France, mais ça arrive aussi qu'on rapatrie les rushs aux États-Unis ou dans le pays d'origine, ce qui n'est pas toujours la meilleure des idées. Et puis ensuite, le film sort, le film, la série, etc., est diffusé tout simplement. Les jeux vidéo, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup de choses à doubler, il y a beaucoup de phrases de PNJ, etc. C'est une masse de travail assez conséquente. Et là, on n'a pas la question de synchronisation qui se pose. Il faut juste que ça rentre dans le timing, parce qu'on ne peut pas changer le code du jeu pour que l'extrait de 8 secondes soit étiré à 10. Donc, il faut que le comédien, en termes de timing, on lui montre juste la sinusoïde de la réplique. Et il faut qu'ils tiennent dans les 8 secondes, par exemple, de la réplique originale. Et surtout, pour le jeu vidéo, les comédiens ont rarement, ça change de plus en plus avec le temps, mais les comédiens et les comédiennes ont rarement des images du jeu. Mmh. Donc, ils doivent travailler totalement sans contexte, avec juste le fichier son de la réplique d'origine. Et parfois, on n'a pas le contexte, on tape un peu à côté. Et quand on regarde le jeu final, on se dit, ouais, le comédien, il est complètement à côté. Mais c'est aussi parce qu'il n'avait pas d'infos. Alors que sur l'audiovisuel classique, on double avec une image en face de soi, une bande rythmique, avec le texte écrit étiré, plus ou moins long, plus ou moins large, pour coller avec la prosodie du comédien original. Et du coup, on s'assure d'avoir le contexte, on s'assure d'avoir l'intention de jeu original, et on arrive à peut-être travailler de manière plus précise que sur du jeu vidéo.
J'ai eu une chance extraordinaire, c'était d'avoir vu Ghost in the Shell, l'AVF, en avant-première, avec Christophe Gans, et d'avoir pas mal discuté avec lui dans une interview. On est en 98-99, si je me souviens bien. Le film est sorti 3 ans plus tard en France par rapport au Japon. Il y a eu une première traduction qui avait été mandatée par Manga Vidéo, qui, en fait, n'avait pas plu à personne. Est-ce que ça arrive régulièrement, en fait, que finalement, il y a un contrôle qualité du livrable avec tous les mixages, etc. Et finalement, non, tant pis, c'est mauvais, on reprend à zéro, ou c'est vraiment exceptionnel.
Non, ça arrive jamais parce que il y a quand même des contrôles au fur et à mesure de la production. Comme je l'ai dit, le client, il surveille le casting, il surveille les enregistrements en cours. Ça arrive quand il y a eu des erreurs, que le client demande des retakes, qu'on appelle des retakes, c'est-à-dire des réenregistrements de petites parties de répliques. Je me souviens, j'étais sur le doublage du film Promare, du film d'animation japonais Promare, et pendant une partie de l'enregistrement, les comédiens ont dit, parce que le distributeur leur avait pas donné l'info, ils disaient Promare. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, ils ont envoyé les rushs au client. Le client a dit, alors c'est bien, par contre, c'est Promare. Donc, il a fallu réenregistrer un certain nombre de répliques. Parce que, oui, mais ça, c'est une mauvaise communication entre le client et le studio de doublage. Donc, ça, en l'occurrence, c'est pas de la faute des comédiens, du studio, etc. C'est aussi un manque de communication qui est parfois aussi involontaire. J'ai fait, il y a pas très longtemps, une vidéo sur Pokémon. Et il y a eu un petit moment où, visiblement, l'équipe avait pas toutes les informations. Un des Pokémon qui s'appelle Paras a été appelé TBA, donc vraiment littéralement un placeholder. C'est comme si je lisais un article de journal et que je disais Lorem Ipsum.
To be announced.
C'est ça, to be announced. C'est ça. Ah, regardez ce Pokémon, information à venir. Et c'est lui qui... Voilà. Et ça c'est aussi des questions de timing, des petits problèmes ponctuels. Et ça arrive... que aussi il y ait des retakes au moment de l'édition DVD. Ça, c'est assez rare, mais pareil, j'ai fait une vidéo sur Full Metal Alchemist qui était justement lui aussi diffusé sur Canal+. Canal+, avait laissé les comédiens interpréter dans le registre qui sentait le mieux et l'adaptateur écrire le texte dans un registre plus familier. Ce qui faisait que Edward, le héros, pouvait dire « Tu vas te le prendre, mon Full Metal point dans ta gueule. » Et l'éditeur DVD, Dybex, ils étaient en mode « Non, ça nous gêne, donc on va remplacer ça, on va réenregistrer ça pour avoir Full Metal point dans ta face. » Et puis, dans un autre registre, certains personnages de l'animé avaient des prothèses en métal qui s'appelaient des mécagreffes. C'était la première proposition de l'adaptateur. Sauf qu'entre-temps, le manga papier était sorti. Dans le manga papier, ils avaient traduit ça en automail. Donc, l'éditeur DVD a demandé à ce que toutes les occurrences à mécagreffes soient réenregistrées pour avoir automail, parce que c'était la traduction du manga. Donc, il s'agissait d'harmoniser toute la licence, toute la traduction des termes de la licence. Il y a quand même des situations où on refait des doublages, non pas parce que on se rend compte avant la sortie que ça nous convient pas du tout, mais après la sortie, parce qu'on veut faire une remise à zéro ou parce qu'on a envie de réenregistrer pour harmoniser toutes les voix d'une licence, justement. Et aussi parce que toute la série n'a pas été doublée à une époque et que c'était il y a longtemps. Il y a des séries comme One Piece, il y a eu les 100 premiers épisodes qui ont été doublés en France par la Sofi à une époque où c'était diffusé sur le câble. Et puis quand un éditeur a repris toute la licence en disant « Bon, Voilà. Là, c'était plus simple de tout reprendre depuis le début parce qu'un certain nombre d'années s'étaient écoulées. Donc, on a repris à zéro en Belgique. Et puis, c'est la même équipe depuis 15 ans maintenant, 20 ans, je sais plus. Donc voilà, ça arrive.
Y a-t-il une différence dans la traduction entre le sous-titrage et le doublage ? On l'a un petit peu abordé rapidement, mais...
Je vais faire vite. Oui, il y a une énorme différence entre doublage et sous-titrage en termes de traduction d'adaptation. Comme je l'ai dit, quand on fait du texte de doublage, il faut que ça sonne oral et il faut que ça colle avec l'élève des personnages. Alors que quand c'est du sous-titrage, c'est un autre problème qui se pose, c'est le problème de la concision. C'est-à-dire qu'on a une limite de caractère par ligne de sous-titre, une ligne de sous-titre qui doit quand même rester affichée à l'écran un certain temps minimum. Donc c'est un autre exercice mental, c'est un autre exercice d'écriture avec des règles totalement différentes. Et il y a des adaptateurs qui font jamais de sous-titrage et des sous-titreurs qui font jamais d'adaptation doublage parce que c'est vraiment deux manières d'écrire très différentes. Un sous-titre peut être plus écrit et moins oral. Il peut aussi être plus succinct dans les informations. Il peut transmettre l'essentiel. Et c'est pour ça que je dis souvent que le doublage peut permettre d'être plus proche de la VO. C'est parce que un sous-titre ne transmet pas d'émotion. Un sous-titre ne va pas indiquer si le personnage est ému ou en colère ou quoi que ce soit. Et autant pour des films occidentaux, on s'en rend compte assez facilement parce qu'on a des codes d'acting partagé, on va dire, j'allais dire tous les pays européens et l'Amérique du Nord. Mais dès qu'on est sur des films chinois, indiens, asiatiques, qui ont des codes de jeu qui peuvent être différents des nôtres, ça peut être d'une grande aide d'avoir une adaptation et des comédiens qui interprètent peut-être avec plus de justesse et qui nous permettent de saisir plus précisément l'énergie de la version originale et du film.
Je renverrai nos audis spectateurs vers la page web de notre émission pour la technologie qu'il y a derrière la bande Rythmo, parce que sinon on va en parler pendant des heures, bien évidemment. Mais j'ai cru comprendre que c'était une technologie qui était plutôt exclusivement française.
Alors, c'est une invention française, ça c'est une certitude. Même en Europe, c'est pas du tout la norme. Et j'ai eu l'occasion de discuter il y a pas très longtemps avec un adaptateur italien qui nous expliquait que à cause de Netflix qui a des studios partout en Europe et qui demande une harmonisation un petit peu de la méthode de travail, il y a certains comédiens italiens à qui on demande d'utiliser la bande Rythmo aujourd'hui, c'est depuis à peine quelques années, hein. Et il y a des comédiens italiens qui sont habitués à avoir leur texte dans les mains qui disent « bah non ». Non, on n'est pas d'accord. Tu gardes ton outil de merde. Moi, je veux le texte dans les mains pour pouvoir l'annoter, pour pouvoir le surligner, pour pouvoir m'y référer directement sans avoir besoin du technicien. Ils ont des arguments qui s'entendent. Donc, c'est effectivement quelque chose de très français, plus précisément francophone, puisque la Belgique l'a adopté, le Luxembourg aussi, et puis dans les pays du Maghreb, je crois qu'on utilise aussi la bande Rythmo. Mais par contre, dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, c'est texte en main, et à la volée. C'est pour ça que je dis qu'on est très précis et on est très exigeant sur la synchro en France, aussi parce qu'on a habitué le public à de la précision grâce à la bande Rythmo.
Y a-t-il eu, à ton sens, alors je vais jouer un petit peu peut-être sur une petite fibre nostalgique, mais y a-t-il eu un âge d'or du doublage en France ? Parce que moi, personnellement, quand j'écoute des doublages des films des années 60 et plus tôt, le son est nettement moins clair qu'en VO. Et dans les années 80, j'ai souvent l'impression qu'ils magnifient le film par la réécriture des dialogues et la qualité des comédiens.
C'est une question délicate. Moi, je pense pas qu'il y ait un âge d'or. Déjà, c'est compliqué parce que âge d'or, chaque génération a son âge d'or, j'ai l'impression. Plus on demande à des personnes âgées, et plus elles vont dire que l'âge d'or, c'est les années où ils étaient gamins, ados, et que ça s'est dégradé avec le temps. Dans le documentaire de Lucas Toll, On m'a volé ma VF, il y a un comédien qui explique que pour lui, l'âge d'or, c'est les années 60-70. Je comprends qu'on trouve les doublages des années 80-90 plus réussis, plus vivants, effectivement, avec ce truc des dialogues qui magnifient le film, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, non pas parce qu'on n'a plus le temps ou parce que on n'a plus envie ou parce que on a plus de talent. Mais c'est parce que le goût du public, les exigences du public a changé, et surtout parce qu'aujourd'hui, on a accès à la VO, en fait. Dans les années 80-90, les adaptateurs pouvaient se dire, bah, de toute manière, le public ne verra jamais la VO. Parce que pour voir une VO au cinéma, il fallait avoir une pellicule VO, et ça demandait un travail et un investissement que tous les studios ne faisaient pas. Il y a des films qui sortaient jamais en VO. Ou alors, il y avait trois pellicules qui faisaient le tour de Paris, et puis c'est tout. Il y avait des cassettes vidéo avec une piste unique, une piste son unique qui était généralement le français. Il y a quelques cassettes VOST, mais pareil, c'était pas courant du tout.
Ouais, la technologie pour l'avoir, il fallait avoir le magnétoscope et le téléviseur spécialisé, donc c'était...
C'est ça. Ouais. Et puis la télévision, bah, c'était la même chose, il n'y avait pas de choix de la langue, donc on regardait que la piste diffusée, et généralement c'était la VF. Parfois sur Arte, il y avait des films en version originale sous-titrée, mais sinon, c'était globalement des films en VF.
Canal+ faisait des diffusions VOST et VF.
Effectivement, mais Canal+, c'était genre deux diffusions sur les 10 ou les 5, je sais plus. Mais sur les 5 diffusions du film, il y en avait genre une ou deux en VO. Et c'était toujours à des heures tardives. Donc majoritairement, c'était la VF qui était proposée au public. Alors qu'aujourd'hui, eh ben, les plateformes, les DVD, les Blu-ray proposent le choix de la langue. Le fait d'avoir des DCP numériques au cinéma fait que un cinéma peut demander au distributeur de diffuser une VOST, et ça demande juste une clé d'accès, c'est très facile à mettre en place. Et puis même à la télévision, c'est pas forcément une info très connue, mais quand vous regardez un film à la télé, vous pouvez changer la langue du film, puisque le signal numérique de la TNT qui est en place depuis plus de 20 ans maintenant, eh ben, il permet de changer de piste sonore, ce qui n'était pas le cas à l'époque des signaux hertziens, quoi.
Pour être exact, on pouvait, il y avait une techno qui s'appelait le NICAM, mais c'était ultra limité.
Ok, d'accord. Eh ben voilà, j'apprends quelque chose. Moi, je connaissais que le Showview qui permettait de voir du sous-titre, mais c'est tout.
Bah, NICAM, tu avais trois pistes son de stéréo, une qui était cachée, qui était plus technique. Et ouais, de toute façon, il fallait aussi que tu actives le sous-titrage anti-op, enfin, télétexte.
Ok, je vois. Et là où je veux en venir avec tout ça, tout ce développement interminable, c'est que maintenant que le public a accès à la VO, il va de moins en moins accepter qu'on prenne des libertés avec le texte. Et si on dit on remplace une référence par une autre référence, eh ben autant dans les années 80-90 c'était très apprécié par le public, autant aujourd'hui on va dire ouais c'est n'importe quoi, ça va se plaindre sur Twitter. L'exemple que je cite tout le temps, c'est Retour vers le futur, qui a une VF quasi unanimement appréciée. Il n'empêche qu'on a remplacé, pour des raisons de synchro et un peu plus spécifiques, on a traduit 1,21 gigawatt en 2,21 gigawatt, enfin même 1,21 gigawatt en 2,21 gigawatt, ce qui n'existe pas, les gigawatts. C'était quelque chose, à l'époque, ça n'a choqué personne, et même 2,21 gigawatt, c'est devenu culte. Si aujourd'hui Retour vers le futur sortait, il y aurait des gens pour râler sur Twitter en disant pourquoi ils ont remplacé 1,21 gigawatt par 2,21 gigawatt. En plus, ça ne veut rien dire gigawatt, ça n'existe pas. Voici un debunk, voici un article scientifique. Il y aurait le Huffington Post qui ferait un petit article. C'est chiant et personne n'a envie de prendre ce risque-là. Donc, on demande aux adaptateurs et aux adaptatrices plus de rigueur et d'être plus fidèles à la version originale, ce qui parfois les énerve et leur facilite pas le travail. Parce que parfois on leur demande de calquer, de faire du mot à mot, et c'est pas forcément le film ou la série n'en ressort pas grandi. Je me permettrais de rajouter un tout petit truc. Parfois les comédiens et les gens du métier vont dire dans les années 80 on avait plus le temps de travailler, notamment Retour vers le futur, je crois qu'ils avaient eu 2 ou 3 mois pour bosser sur la VF. Aujourd'hui une VF de film, il faut que ce soit bouclé en 2 à 3 semaines quand on a bien le temps, parce que pour Netflix c'est plus même une semaine. Alors oui, ils avaient plus de temps, mais d'un autre côté les films sortaient 3 mois plus tard.
3 mois, 6 mois, 9 mois voilà. Après, c'était...
3 mois, 6 mois, 9 mois, même parfois un an, plus d'un an. Il y avait un décalage de sortie. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure de la mondialisation, j'avais posé la question un jour en conférence, j'avais demandé au public, si on vous demandait d'attendre 3 mois supplémentaires la sortie d'un film, mais en échange, vous êtes sûr d'avoir une VF impeccable, est-ce que vous accepteriez? Eh ben, J'avais pourtant un public d'amateurs de doublage. Bah, ils ont tous répondu non. Non, l'heure n'est plus aux 3 mois de décalage. Déjà que les gens râlent sur la chronologie des médias, leur demander en plus 3 mois de décalage entre la sortie US et la sortie française, c'est un peu fort du café.
Y a-t-il eu un type de doublage qui t'horripile d'un rire nerveux? Les sitcoms brésiliens ou les pornos des années 70? Tu es libre de répondre. Hein. Nous n'avons pas de publicité, donc pas de démonétisation possible et en cas de contestation, voire l'argom. Hein.
Non, moi j'aime beaucoup le doublage des films porno, pas seulement des années 70. J'ai même fait une vidéo dessus, qui est disponible sur des sites pour adultes. Mais j'ai vraiment fait une vidéo, je voulais mettre balle d'extrait, je voulais vraiment ne pas me poser la question. Du coup, j'ai fait une vidéo avec plein d'extraits pornographiques et du coup, je l'ai mis sur des sites pornographiques. Et c'est un film qui s'appelle « Deux sœurs à enculer », le titre est prodigieux. Et ils ont inventé une intrigue à base de voleurs de tableaux qui s'appelle « Fantofesses ». C'est catastrophiquement génial. Et ouais, parce qu'il y a une, il y a un côté un peu je m'en foutiste. Il y avait évidemment quasiment pas de budget pour le doublage de films porno, donc parfois il y avait pas de texte et les comédiens devaient improviser. C'était même assez fréquent qu'il y ait zéro bande rythmo. Et pourtant, si on tend un peu l'oreille, évidemment c'est pas sur leur page Wikipédia, mais si on tend un peu l'oreille, on peut voir ou plutôt entendre des comédiens de renom. Je sais que Jean Roche, par exemple, qui a fait Lando Calrissian dans les Star Wars, il a commencé en faisant du porno. C'est un des rares qui l'assume. Il y a eu un reportage où on le voit, dont je diffuse un extrait dans ma vidéo. Donc non, le doublage des pornos, moi je trouve ça passionnant et fascinant. Je regrette même à titre personnel qu'il n'y en ait plus aujourd'hui. Maintenant, les sitcoms brésiliens, j'en regarde pas, donc je pourrais pas m'exprimer sur le sujet. Pour les sitcoms en général, je trouve aussi que c'est un doublage très intéressant. J'ai pu discuter avec des gens qui font les Feux de l'amour et ils expliquent que c'est pas le même travail, bizarrement, parce qu'il faut en faire vraiment des caisses et aussi c'est pas mixé de la même manière. Et ça, c'est la petite anecdote que je glisse aussi parce que c'est une discussion qui revient aujourd'hui avec Netflix, qui en a parlé, qui l'a explicité il n'y a pas très longtemps. Mais les premières sitcoms qui ont été diffusées en France, les clients, les diffuseurs, c'est-à-dire la chaîne de télé, a demandé explicitement à ce que les voix soient surmixées par rapport à un film, qu'on mette les voix plus fortes, beaucoup plus fortes, et que les comédiens en fassent plus, parce que, je cite pas in extenso, mais c'était grosso modo l'idée, il faut que la ménagère de moins de 50 ans puisse suivre le feuilleton tout en faisant son repassage, tout en faisant sa vaisselle, tout en faisant les tâches ménagères. Donc, il faut que ce soit facile à suivre, même si on n'a qu'une oreille sur deux de disponible. Et donc, c'est pour ça que les VF de sitcom sonnent si particuliers, parce qu'il faut qu'on puisse les suivre de loin. Et donc, on les surmixe et on les surjoue. Voilà.
Tout ça à cause de DG dans des grandes chaînes qui, quand ils rentrent le soir, ils veulent pas avoir à se prendre la tête avec Madame Zah. C'est intéressant, ça. Je vais proposer un truc sympa à ceux qui nous écoutent à la radio, et bien évidemment, c'est qu'on va s'écouter la bande originale du Yves de la Jungle avec Balou qui dit il en faut peu pour être heureux. Je vais passer la VF et en plein milieu, je vais faire un cut sur la VO. Vous allez sentir la différence, combien la VF, je la trouve, elle est beaucoup mieux interprétée. Ne bougez pas. On revient avec ça.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux.
Il en faut peu pour être heureux, Jean Stout et Pascal Bressy, bande originale française du Livre de la Jungle.
Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Mais oui,
pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis.
prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce.
Aïe.
Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris ? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Pour être heureux ?
Pour être heureux.
The simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few.
The Bare Necessities par Phil Harris et Bruce Resserman, bande originale en VO du film The Jungle Book.
The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, that's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you prick a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big pawpaw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you.
Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Hugo Amizé alias Mr. Fox, critique sur les doublages audiovisuels, pour parler de l'évolution du secteur avec l'arrivée de l'IA. Mr. Fox, Hugo, combien coûte la chaîne complète de localisation des traductions au doublage et le sous-titrage ?
C'est impossible de répondre à cette question de manière définitive, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà, ça dépend de quel produit il est question, si c'est un film, si c'est une série, ça va pas coûter la même chose, ça dépend de la longueur du truc, ça dépend aussi si c'est verbeux. Il y a des films de 3 heures où il est prononcé quasiment aucun dialogue, bon bah ça, ça va pas coûter la même chose à produire qu'un court-métrage où tout le monde parle tout le temps et où il y a 1000 trucs à doubler. Ça dépend aussi si il y a y a beaucoup de figurants qui parlent en arrière-plan, ce qu'on appelle les ambiances. Ça dépend aussi du temps qu'on donne au studio pour travailler. Pour le même film, un éditeur DVD de seconde zone va laisser 3 jours de boulot, là où un grand studio, pour un tentpole hollywoodien, va donner 3 semaines, 1 mois, peut-être 1 mois et demi. Et donc forcément, chaque journée de studio, c'est des gens à payer, donc ça augmente le budget. Ça dépend aussi s'il va y avoir des retakes, ça dépend aussi dans quelles conditions le truc va être diffusé derrière. Donc ça dépend aussi si ça va être doublé en France, en Belgique, au Luxembourg. Les conventions collectives des comédiens et des techniciens sont pas tout à fait les mêmes. Maintenant, y a carrément des VF d'animés et ça a beaucoup fait parler. Y a des VF qui sont carrément enregistrés à Barcelone, au Maghreb, ou même, c'était le cas de Beyblade en Israël. Donc, y a beaucoup trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Pour donner même une échelle large, en fait. Je peux même pas te dire entre 1000 et 100 000, parce que je suis sûr qu'il y a des distributeurs facétieux qui arrivent à doubler pour moins de 1000 euros. Donc, donc, en vrai, c'est compliqué. Non, mais tu vois, typiquement, c'est con, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai fait doubler par Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey, un deepfake de Shining. Un artiste, un SFX artiste américain qui a remplacé le visage de Jack Nicholson par celui de Jim Carrey en gardant tout le reste. Et moi, je me suis dit, le trucage est très beau, mais en France, on connaît trop la voix de Jim Carrey, ce serait bien de faire réenregistrer Emmanuel Curtil. On a quelqu'un, Hervé Grull, que je remercie, qui nous a prêté gracieusement son studio pour l'enregistrement. Donc, wow. On n'a pas payé d'enregistrement. On n'a pas payé de mixage non plus, parce que c'est Mike Le Cicero qui s'en est occupé. J'ai pas payé d'adaptateur, parce qu'on a repris le texte d'origine. Et j'ai simplement un ami, que je remercie là aussi, qui a refait une bande rythmo pour cette petite séquence. Donc, tout ça, ça ne m'a rien coûté. Et le comédien... Je voulais le payer au tarif syndical normal. Ça a coûté, pour le comédien, je crois, autour de 300 euros, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, en ne payant quasiment aucun des services et en payant juste le comédien, pour une séquence de 5 minutes, ça faisait 300 euros. Donc imagine si je payais tout le monde, si je payais la location du studio, mais d'un autre côté, imagine aussi qu'à la place d'Emmanuel Curtil, j'ai appelé un comédien et que je le sous-paye parce qu'il n'est pas au courant des conventions collectives. Eh ben en fait, ça varie beaucoup trop, quoi. Donc voilà, je ne peux pas répondre à ta question, je suis désolé, j'ai passé 3 minutes à répondre que je ne pouvais pas répondre, je suis désolé. Mais
je fais mon rôle aussi de poser des questions en sachant pertinemment, etc. et de voir justement si peut-être il y a un chiffre qui va sortir et c'est une discussion entre guillemets ouverte.
J'avais fait un plateau radio sur Europe 1, je crois, il m'avait pris à distance par téléphone et l'animateur, je ne me rappelle plus son nom, il m'avait dit « je crois que ça coûte tant ». Et il sortait son chiffre de son cul. Et moi, j'étais en mode, si vous le dites, je pouvais pas confirmer du tout, ni confirmer, ni infirmer. Du coup, j'étais en mode, vous avez votre source, ok, d'accord, très bien. Mais je comprends pas d'où sortait ce chiffre. En radio, en télé, allez, c'est pas le cas ici, je t'en remercie. Mais en radio, en télé, on n'a pas le droit de dire je ne sais pas. Donc, il fallait sortir un chiffre. Là, j'ai toute la latitude nécessaire pour dire je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Et ça bouge trop d'une production à une autre et selon les conditions pour donner un chiffre précis.
Entre 2015 et 2022, le secteur a eu un énorme besoin de traduction et s'est retrouvé avec une pénurie de traducteurs et de doubleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, c'est pas tant qu'il y a eu une pénurie de traducteurs, parce que, mine de rien, il y a quand même énormément de gens qui travaillent dans ce secteur. Par contre, Netflix avait la flemme. C'est plutôt qu'ils ont fait appel à des robots et à des traducteurs, des traductions un peu automatisées, qui font qu'il y a eu des traductions de mauvaise qualité. Et ça, effectivement, c'est plus, d'après moi, des soucis d'économie de bout de chandelle de la part de Netflix que d'un vrai manque dans le secteur, parce que des comédiens, il y en a plein qui ont envie de travailler, des adaptateurs et des traducteurs, il y en a plein qui seront ravis de travailler. Simplement, aujourd'hui, il existe des conventions collectives qui font que tu peux pas payer n'importe qui, n'importe comment. Et je pense que cette pénurie qu'invoque Netflix, c'est plutôt l'envie de ne pas payer en bonne et due forme toutes les productions Netflix, surtout qu'ils en produisaient à l'appel. Je pense que autant ils se sont payés des services de bons adaptateurs et de bons comédiens sur les gros noms à la Squid Game, à la Stranger Things et compagnie, autant quand c'était des productions locales, ce qu'on appelle le fonds de catalogue qui n'est là que pour enrichir la base de données. Eh ben oui, dans ce cas-là, j'imagine qu'on n'avait pas envie forcément de payer un doublage en bonne et due forme. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Amazon Prime, qui avait doublé un film, enfin deux films argentins, ouais, qui étaient vraiment des produits de catalogue, qui ont été doublés avec vraiment une voix de synthèse, mais pas les belles voix de synthèse qu'on fait aujourd'hui, hein, des voix de synthèse, des text-to-speech pourris. Clairement, il y avait des adaptateurs dispo pour faire une belle VF, mais Amazon ne voulait pas payer une belle VF à ce film. Et donc, du coup, bon, bah, on fait une traduction automatique Google et un text-to-speech, et puis merci, merci, bonsoir.
Amazon Prime s'en est excusé, c'était défaussé en disant que c'était une erreur qui venait du distributeur.
Alors, oui, effectivement, mais parce que Amazon Prime, contrairement à Netflix, ne fait pas forcément toute la distribution, et parce que ça, c'est un fait, mais du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand on est un distributeur et qu'on veut vendre ses films à une plateforme ou un autre distributeur ou quoi que ce soit, un film en VF se revend plus cher qu'un film sans VF. Donc je pense que là, le distributeur, il s'est dit, bon, bah, je vais faire une VF à 0€, histoire de dire qu'elle existe. Mais le problème, c'est que Amazon Prime ne faisait pas de contrôle qualité. Il est là le souci. C'est bien beau de dire, bah, le distributeur a fait n'importe quoi, mais Amazon Prime a le devoir en tant que plateforme de ne pas accepter n'importe quoi et de vérifier un minimum. Sauf qu'à ce moment-là, ils achetaient tout et n'importe quoi sans vraiment regarder ce qu'ils achetaient. Donc, quelque part, ce n'est que justice de se faire engueuler et taper sur les doigts derrière, quoi.
Maintenant, avec l'arrivée de l'IA générative, est-ce que ça a vraiment massacré les tarifs pour les traducteurs?
Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Il faut savoir que dans le monde de la traduction audiovisuelle, que ce soit le sous-titrage et le doublage, il y a des conventions collectives, il y a des tarifs syndicaux et il y a des grilles tarifaires à respecter. Il y a, j'observe en tout cas, une solidarité dans le métier qui fait que pour la majorité des traducteurs et adaptateurs vont simplement refuser si on leur propose de payer en dessous des tarifs normaux. Donc du coup, cette solidarité a fait que les traducteurs-adaptateurs n'ont pas baissé leurs tarifs. Mais du coup, bah, les plateformes ont de moins en moins de scrupules à faire appel à des outils automatisés. Ce qui fait que c'est un peu con comme réponse, mais non, les traducteurs et adaptateurs ne sont pas moins bien payés pour leur travail. Par contre, ils travaillent beaucoup moins. Et je vois de plus en plus de gens qui avaient fait de la traduction leur activité principale, qui me disent, bon, bah voilà, j'ai repris mon activité de prof, j'ai repris un taf alimentaire d'hôtesse de caisse, etc. Parce que, bon, bah voilà, on met un point d'honneur à conserver la grille tarifaire en vigueur, mais du coup, on nous commande moins de trucs et du coup, eh ben, on se retrouve à devoir reprendre un taf alimentaire.
Mais donc, dans ce cas-là, quand on voit au générique post-édition à la place de traduction, c'est une manière aussi de jouer sur le poste financier, quoi. Et de payer moins cher.
Bah, c'est même de ne plus payer. C'est-à-dire que les plateformes font appel à des outils. J'imagine qu'ils achètent une licence à l'année, comme ça se fait beaucoup dans l'intelligence artificielle générative. Pour eux, c'est pas un coût. Ils le considèrent comme du zéro, vu que ça fait partie des abonnements à l'année. Un peu comme les abonnés Netflix, d'ailleurs, qui ont l'impression que leur film coûte zéro en oubliant qu'ils payent un abonnement mensuel, quoi. C'est plus une dépense. En tout cas, c'est beaucoup de distributeurs veulent supprimer cette dépense-là en se disant, et ça pour moi c'est l'erreur principale que fait le monde de la distribution et notamment les plateformes de VOD, c'est de croire que le public VF ou même le public VOST est con et peut avaler n'importe quoi. Et ça, c'est on ne peut plus faux. C'est pas parce que les spectateurs regardent des films en VF qu'ils ne sont pas exigeants, et quand il y a une VF ratée, ça se sait, ça se dit, ça se plaint, Et parfois, il y a des excuses. Ça peut être des excuses, et puis ça peut être aussi tout simplement un réenregistrement du doublage parce que bon, bah, on a merdé. Et c'était le cas du film Dumbbells sur Netflix qui avait beaucoup fait parler de lui parce que Netflix l'avait confié à une bande d'amateurs qui faisait ça pour le fun et qui pensait pas faire un doublage pro. Et bah, les gens ont gueulé, alors que c'est vraiment pas un bon film, c'est vraiment pas un film sur lequel le public avait des attentes. Mais le simple fait qu'une VF aussi médiocre existe a poussé Netflix à commander un réenregistrement en bonne et due forme, quoi. Donc non, le public VF n'est pas inattentif, loin de là. Pareil, il y a eu des rappels de DVD parce que l'éditeur avait mis, sans faire exprès, la version québécoise dans le disque. Donc, et puis pareil, TF1 qui diffuse de temps en temps des versions québécoises. Bon, bah voilà, mécontentement, message d'excuses sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est une erreur de croire que le public peut bouffer n'importe quoi. Et la preuve, c'est ce que tu me disais sur le documentaire que tu avais vu il n'y a pas très longtemps sur Jeff Buckley, c'est que bah, les mauvais sous-titres, ça se voit, ça sort du film. Et puis, bah, ça peut tout simplement, à terme, faire se dire aux spectateurs « Bon, bah, j'arrête de regarder des films sur cette plateforme, parce que les sous-titres sont toujours nuls à chier. »
C'était pas dans une plateforme, c'était dans un cinéma.
C'est encore pire, alors. Encore pire.
Mais pour HBO. Du coup, on est passé en moins de 4 ans à une forte demande professionnelle, à une paupérisation violente du secteur. Ça s'est vraiment senti comme ça ?
Ça dépend de quel morceau du secteur, on va dire. J'ai l'impression que ça n'a pas tant impacté que ça les comédiens, parce qu'il y a encore une grosse réticence à doubler par IA, réticence qui est fondée, puisque les quelques studios qui ont tenté l'expérience se sont pris un backlash en ligne. Et ça, c'est un peu le truc qui me donne de l'espoir. Moi, je suis un éternel optimiste. Et c'est vrai que je vois le public, on va dire, et même je vois des gens autour de moi utiliser ChatGPT pour demander quel temps il va faire, pour demander d'écrire une lettre, un CV, etc., ou pour lui demander de décrire l'odeur d'un paix. Mais par contre, c'est inenvisageable pour ce même public qui pourtant utilise ChatGPT au quotidien. C'est inenvisageable que l'intelligence artificielle générative prenne cette place dans la sphère artistique et culturelle. C'est-à-dire, demander à ChatGPT des petits trucs futiles, demander à Alexa de changer la couleur de la lumière, oui. Avoir un doublage fait par IA, non. Et il y a eu un sondage de l'IFOP il n'y a pas très longtemps, ou de l'INSEE, je ne sais plus, qui a été commandé par justement l'association Les Voix. Je crois qu'on était sur plus de 80% du public qui disait qu'il boycotterait un film si sa VF était réalisée en IA.
Au grand désespoir, bien évidemment, de nos amis de Nanarland. La suite de l'interview d'Hugo Amisé sera diffusée la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà écouter son intégralité, ou plutôt son director's cut, dès maintenant sur la page web de notre émission, cpu.pm/235. C'est gratuit, sans pub ni inscription ni tracking. Pourquoi s'en passer ? C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Dans la série Intelligence Artificielle, Release EX235, doublage robot, première partie. Cette release, l'équipe est composée de Dustrich Chief Translating Officer, la release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Merci à Infested Grunt et Music Action pour le support matériel, sans eux l'enregistrement n'aurait pas été possible, et à Hugo Amisé pour sa captation de son côté. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/235. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h pour la suite de cette émission. « Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé avec des acteurs sur planche, sur scène et en VF. On veut. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.